Bonjour à tous, chers auditeurs. Mercredi dernier, lorsque José Altidore a marqué le but de la victoire de Toronto au stade Saputo, les espoirs de qualification de l'Impact pour la finale de la Coupe du Canada semblaient partir en fumée, aussi épaisse que celle qui couvre actuellement la côte ouest. Et c'est au milieu de celle-ci, d'ailleurs, qui a au passage obligé deux pauses hydratation, que les joueurs de Thierry Henry ont montré que non, les situations chaudes ne se refroidissent pas toutes seules comme par magie, mais bien en faisant des choix cohérents et en les appliquant. Certains d'entre eux, tels probablement l'émergence du vélo dans nos villes, resteront là à tout jamais, comme le premier but de Samuel Piette sous le maillot de l'IMFC. Reste maintenant ne pas s'écarter de la bonne voie et à remporter une nouvelle victoire ce mercredi à Vancouver. Mathias Van Alst au micro pour cette émission coup franc consacrée aux dernières encablures de cette phase 100% canadienne en MLS. Pour en parler, les deux acolytes qui étaient avec moi au stade Saputo pour les matchs à domicile joués ces derniers temps. En fait, pour tout vous dire, on est trois journalistes par loge, à bonne distance les uns des autres. Le premier d'entre eux n'a jamais pris l'option repas. De toute façon, il ne l'aurait pas digéré contre Toronto, un match lors duquel il tournait comme un lion en cage. Vous aurez reconnu Éric Chenois. Salut Éric.
Bonjour Mathias. Très hâte de débattre de tout ce qui s'est produit sur le terrain, parce que pour une fois, il s'est pas passé grand-chose hors terrain. C'est surtout sur le terrain que ça s'est produit. Et il s'est produit de belles choses, des choses intéressantes, et j'ai très hâte d'en débattre.
Eh ben, allons-y, présentons notre autre acolyte que tout le monde aura reconnu et qui, au stade, était tout en contraste avec Éric, d'une placidité à toute épreuve, ou presque. C'est peut-être lui le dompteur, finalement. Quentin Parisis. Salut, Quentin.
Bonjour, Mathias. Bonjour, Éric. J'aime bien cette introduction, tout en philosophie et en sagesse que tu as fait de moi. C'est très apprécié, Mathias. Merci beaucoup. Et en effet, c'était une bonne semaine. En tout cas, je rejoins déjà Éric sur son analyse. C'était vraiment plaisant cette semaine. Donc c'est toujours bien de commencer la semaine comme ça, on va dire.
Bon, alors, allons-y, ne tardons pas, rentrons dans le vif du sujet et dans les débats de cette émission coup franc qui, comme vous le savez, est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions d'ImpactSoccer.com, Vioparc et Québec Soccer, et grâce à vous, chers auditeurs. D'ailleurs, Éric a vu quelques classements cette semaine et notre émission joue dans la cour des grands. Merci de tout cœur. Eh ben oui, les réjouissances sont de mise. Il y a de quoi, hein, avec les 4 buts inscrits par Montréal à Vancouver dimanche soir. Alors évidemment, pour notre question en un mot, on ne pouvait que laisser parler votre enthousiasme en vous demandant de qualifier le jeu offensif montréalais à cette occasion. Avant d'écouter vos mots très très divers, une fois de plus, écoutons d'abord ceux de l'équipe. Et on va commencer par Quentin cette semaine.
Bah, l'animation était intéressante. C'est assez basique, mais c'est quand même un mot fort de sens, d'autant que ça n'a pas été le cas cette saison. On en a quand même souvent débattu. Il y a eu pas mal de recherches, pas mal d'essais, des essais infructueux, des choses dans lesquelles on pouvait espérer voir quelque chose. Puis finalement, c'est dans un schéma finalement inattendu après tous ces essais que je trouve que les choses commencent à prendre forme et à donner des perspectives intéressantes. Donc c'est mon mot de la semaine, c'est intéressant.
Et moi, Mathias, je vais faire un lien bien involontaire avec ton introduction. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas commandé le repas au stade, mais j'ai trouvé ce qu'on a vu sur le terrain fort appétissant. Et c'est mon mot de la semaine, appétissant. Mon Dieu, ce que Thierry Henry mijote dans sa cuisine sent très bon. Bien sûr, ça n'a pas le plat n'a pas encore été servi comme tel, mais on le sent, on le voit arriver. C'est intéressant. Je trouve que ça se dessine bien. Hein, ça ouvre l'appétit. On a envie de l'avoir sous les yeux, sous les mains, dans la bouche. On en veut plus déjà, même si on ne l'a pas encore. Et puis, on a bien hâte de voir la suite.
Si vous me permettez une intervention, on avait un poète, nous voilà avec deux poètes. Alors, je suis vraiment désarçonné par tout ce que j'entends aujourd'hui.
Ah non, c'est pas de la poésie, c'est du sadisme, moi je trouve, parce que là j'ai faim. Non, je sens l'odeur de la cuisine créole, et l'Impact de temps en temps fait des soirées de cuisine haïtienne au Stade Saputo que j'aime beaucoup. Et ça y est, j'ai faim. Bon, c'est pas mon mot là, on va changer les idées et je vais donner le mien qui est diversifié pour plein de raisons, parce que oui, diversifié, 4 buteurs différents, ça c'est la première des évidences. Mais il n'y a pas que ça, très très loin de là. Dans le cours du jeu, on a eu un but venu de l'axe, le but d'ouverture, Un but venu de la droite, celui de Kyoto sur une passe de Piet, un but venu de la gauche, un centre de Taider pour Piet, les autres c'était des combinaisons au sol, des buts qui ont été conclus aussi bien dans le petit rectangle, qui est une grande faiblesse de l'équipe depuis des lunes, que dans le grand, une reconversion rapide pour ouvrir la marque, des actions construites, un penalty, donc une phase arrêtée, on rajoutera aussi que contre Toronto il y a eu des buts sur phase arrêtée, donc tout ça sur un seul match, c'est vraiment une belle panoplie, donc oui, diversifiée et à plusieurs titres. Alors, de votre côté, il y a eu énormément de mots différents, donc il a fallu faire une sélection. On a retenu, entre autres, agréable de Guillaume Vaillancourt, entreprenant de Frédéric Fortier, surprenant de Danny Couture, réconfortant de Claude Caron, fluidité de Patrick Baudouin, collectif d'Hassan Hang, piet d'Éric Michaud, adversaire de Bodo Marquette, ou encore convaincant de Dids. On va commencer l'émission évidemment en parlant de cette victoire à Vancouver. Et ma première question va être assez simple, messieurs. Quels sont les enseignements principaux à tirer de ce match?
Ben, ce que je retiens surtout, c'est la progression qu'on a vue en fait dans les derniers matchs. Je pense que si on remonte à quelques émissions, j'avais un petit peu décrié l'animation offensive. J'avais dit que c'était d'une nullité abyssale, si je me souviens bien. Et là, on était carrément aux antipodes. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé le plus, c'est cette progression. Donc, au début, c'était difficile, mais étant donné que c'était un nouveau schéma, c'était un petit peu normal. Et puis, il y avait aussi cette espèce de retour à la compétition après le tournoi à Orlando, après une pause forcée de 2 semaines, 3 semaines. Donc, c'était normal que ça soit plus compliqué. Il a fallu aussi apprendre les postes, apprendre les nouveaux rôles et tout ça. Puis maintenant, ben on voit que ça commence à tourner un petit peu mieux. Rien n'est parfait, évidemment, ça ne l'est pas. Mais ma foi, c'est fort intéressant.
Moi, ce qui m'a vraiment interpellé sur le match de Vancouver, c'est que dès les premières minutes, l'état d'esprit était là, ça a sauté aux yeux. Il y avait de l'intensité, il y avait de la volonté, il y avait vraiment... On sentait que l'Impact avait conscience de l'enjeu, parce qu'il faut quand même rappeler que c'était un match quasi à élimination directe pour le championnat canadien. Et tout de suite, il y a eu cet état d'esprit vraiment conquérant. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai jamais douté de la victoire de l'Impact, même quand ils ont été menés. Pour moi, c'était un accident de parcours quand Baird a ouvert le score. Bon, c'était un fait de jeu, mais j'ai eu cette impression que l'Impact allait continuer à maîtriser, à rentrer dedans. Ça a été assez étonnant de ressentir ça parce que je vous le dis, ça faisait vraiment longtemps. Je me demande même si j'avais déjà eu ce sentiment-là avec l'Impact. Or, sur ce match-là, j'ai jamais eu aucun doute sur la victoire et sur la volonté qui allait être mise dans le match. Alors, ça a vraiment été une belle stupéfaction, si j'ose dire.
Encore une réponse possible à la question en un mot. De mon côté, ça reste Vancouver. Vancouver, tout le monde sait que c'est une équipe très faible. Et c'est là que c'est intéressant, comme Eric lui en parlait tout à l'heure. Les deux équipes se sont affrontées il n'y a pas longtemps. Et on a pu voir la différence, l'écart et les progrès. Et c'est là que la comparaison est extrêmement intéressante. Parce qu'honnêtement, le match au Stade Saputo... pour l'Impact, finalement, il suffisait de paraître pour vaincre tellement Vancouver était quasiment une victime consentante. Autant Vancouver n'a pas été fabuleux ce dimanche non plus, notamment Hassall qui est complètement passé à côté de son sujet. Autant il y avait quand même de leur côté plus de désir, plus d'envie et un petit peu de mieux, on va dire, en possession de balle. C'était toujours pas génial. Mais ce qu'il fallait voir, c'était surtout en face et du côté de l'Impact, c'était pas juste on balance des longs ballons, on profite des faiblesses de l'adversaire, puis on a la Palainen qui court comme un lapin et ça suffit pour s'imposer. Non, comme je l'ai décrit tantôt avec tous les buts, il y a eu vraiment du jeu diversifié, des choses qui venaient de tous les côtés. L'Impact n'est pas responsable des faiblesses de Vancouver là. On avait parlé avant le premier match qu'il fallait justement les utiliser, ces faiblesses-là, parce que avec le fait que c'était la reprise de la compétition, qu'il y avait toutes les circonstances qu'on connaît déjà, c'était pas facile pour Montréal, d'autant que Vancouver, lui, avait déjà un certain rythme de match avec ses deux déplacements à Toronto. Là, la barre était beaucoup plus haut pour l'Impact, pour pas mal de raisons différentes. Il fallait montrer les progrès qui avaient été effectués depuis ce match-là. Et ils ont été clairement prouvés. et ça c'est une bonne chose et c'est encourageant. Évidemment, à revoir contre un adversaire d'un autre calibre, peut-être moins fort que Toronto, mais de nouveau, l'Impact n'est pas responsable du calendrier, et ce qui va arriver dans quelques semaines, justement, avec d'autres adversaires, d'autres styles de jeu, et un niveau plus proche de celui de Montréal, ça va rendre les choses très très intéressantes.
Ouais, même face à un autre adversaire, l'Impact peut encore perdre, prendre quelques bouillons à l'occasion, parce que faut pas non plus voir trop haut pour l'Impact. Faut quand même aussi relativiser d'où vient l'Impact et s'en souvenir. Ce qui est important, c'est, vous l'avez mentionné, c'est la progression. C'est sûr que Vancouver est un adversaire faible, mais l'Impact était une équipe faible il y a encore pas si longtemps, et c'est pas négatif ce que je dis, puisque je dis plutôt ça pour souligner la progression qui a été faite. C'est-à-dire qu'on avait deux équipes de bas de tableau, mais là, clairement, sur ce match-là, et même sur la séquence de cette reprise 100% canadienne, l'Impact, évidemment, il y a eu des matchs meilleurs que d'autres, il y a eu des phases meilleures que d'autres, mais globalement, c'est devenu une équipe convenable, une équipe moyenne de MLS, de milieu de tableau, finalement. Cette situation, ce classement, c'est pas du tout usurpé. Donc c'est sûr qu'on aimerait voir ça contre des adversaires un peu plus coriaces que Vancouver, mais déjà avoir su reléguer Vancouver à sa place quand on est l'Impact de Montréal, bah c'est déjà en soi quelque chose de notable et sur lequel on peut s'appuyer.
Ouais, puis ce qui est impressionnant aussi, c'est la rapidité avec laquelle les éléments sont tombés en place, quoi, parce que comme je disais tantôt, si on remonte aux deux premiers matchs au Stade Saputo, c'était vraiment pas terrible. Et puis deux matchs plus tard, bah c'était déjà beaucoup mieux. Donc on sent qu'il y a eu quand même beaucoup beaucoup de travail qui a été fait, du travail intelligent, probablement aussi de la bonne communication de la part des entraîneurs. Donc je pense que le projet est clair dans la tête de tout le monde, puis ça transparaît sur le terrain, quoi.
Sur la communication, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand même ce qui s'est passé avec Okonkwo. Okonkwo qui a quand même fait un bon petit tour sur le banc, qui a été piqué par Thierry Henry, qui, on n'a pas eu la teneur exacte des propos, mais il a quand même dit publiquement que il avait pris Okonkwo entre quatre yeux, et qu'Okonkwo savait parfaitement pourquoi il était sur le banc et qu'il jouait pas. Et Okonkwo a marqué, était titulaire, a marqué. Donc ça, la communication a aussi cette importance-là sur le management des hommes et de l'effectif.
Parlant de communication, Quentin, je vais faire une petite déviation, on reviendra à la suite de ce débat dans quelques instants. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé du penalty? J'ai même pas lui donné qualificatif, justement, et en fait de l'avant-penalty entre Taider et Kyoto.
Oh, c'est un fait de jeu. Ça arrive partout.
Ouais, pareil. Je pense que Kyoto était vraiment très 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 motivé pour ce match-là. Je sais pas qu'est-ce qu'on lui a dit avant, je sais pas du tout ce qu'il a mangé non plus, mais il avait l'air d'être enragé. Il voulait vraiment, vraiment, vraiment marquer un but. On aurait dit qu'il y tenait à 120%. Donc, quand il a vu la possibilité de marquer sur penalty, je pense qu'il voulait le ballon, mais il s'est vite rendu compte que, ouais, finalement, Taider, avec sa fiche parfaite en penalty, c'est difficile à déloger. Donc, je pense que c'était juste sur le moment, quoi. Moi, ça m'a pas outré.
Et le but de Piet a montré aussi qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe, parce que évidemment, tout le monde aime bien Samuel Piet, là on s'entend, et puis on était tous contents pour lui, mais ça, tout le monde a couru et on n'a pas senti qu'il y avait de l'animosité entre certains joueurs.
Ouais, puis je vous rejoins tous les deux, hein, mais bon, ça reste quand même un débat, une question qu'il fallait se poser, puis on l'a vu aussi, hein, Kyoto, il avait envie de tirer, mais il n'a pas été désagréable avec Taider n'a pas été désagréable avec Kyoto, puis j'imagine que c'est des choses qui ont été peut-être discutées dans le vestiaire après pour que tout soit clair, mais là aussi, comme vous, c'est un fait anecdotique, puis c'est des choses qui arrivent dans les équipes, il n'y a rien de grave à ça. Revenons donc au débat où on parle de la faiblesse de Vancouver. Il y avait aussi au premier match, je trouve, une grosse faiblesse mentale qui était moins présente. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait davantage de désir. On peut aussi se dire qu'après le 1-4, Vancouver aurait pu complètement s'effondrer, et finalement, ils ont réagi. Pas seulement en revenant à la marque, mais aussi en recommençant à jouer, en recommençant à essayer de faire quelque chose. Et je suis désolé que les supporters de Vancouver qui écoutent ce que je vais dire me pardonnent, parce que c'est vraiment déprimant d'entendre ça, mais c'est comme ça. C'est une des raisons de satisfaction, comme le fait que les remplaçants ont apporté un certain plus, alors que d'habitude, c'est au mieux tout aussi décourageant que les titulaires. Et c'est vrai que quand on est une équipe et que ça, ce sont les raisons de sa satisfaction, ça va vraiment aller très 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 mal. Mais au moins, ces points-là, par exemple, ce sont quand même des petites choses qui ont été mieux que d'habitude à Vancouver. Puis il y a eu le fait que bon, bah, Vancouver a marqué, Maciel a été exclu, les deux équipes se sont retrouvées à 10 contre 10. Et finalement, dans d'autres circonstances, Montréal aurait été dans ses petits souliers, pour dire les choses poliment, alors que là, finalement, oui, il y a eu des moments inquiétants, hein, notamment le sauvetage de Bruguière sur la ligne, mais Vancouver a pas été très dangereux, je veux bien que Vancouver est extrêmement faible, mais Montréal aurait pu se saborder tout seul. On l'a déjà vu dans les années précédentes, et ça non plus, ça n'est pas arrivé.
Ouais, c'est sûr que le sauvetage de Bruguière, c'est un tournant du match. À partir du moment où Vancouver a raté cette occasion-là, il était plus possible pour eux de revenir. C'est sûr que s'ils avaient marqué, on était à 4-3, la dynamique à 10 contre 10, la dynamique aurait pu être différente. Mais à partir du moment où ils ont raté cette occasion-là, c'était plié pour moi. C'était fini. Ils avaient raté le coche. Ce qui est intéressant pour l'Impact dans cette perspective-là, c'est justement que l'équipe a réussi à gérer ce temps un peu plus faible et à préserver l'avantage. C'est évidemment un exploit individuel de Bruguière, mais qui vient pas non plus de nulle part, parce que ça veut dire qu'il y avait quand même des réflexes, que la défense a été organisée d'une certaine manière, puisque voilà, Bruguière est venu en couverture. C'est finalement bien joué, bien défendu. C'est sûr que il y avait le feu. On est d'accord, mais cette capacité à gérer les situations délicates dans un match qu'on maîtrise, c'est quand même aussi un signe encourageant pour la suite et c'est vraiment à préserver et à continuer.
On n'est pas filmé, mais j'opinais de la tête pendant que tu parlais.
Moi aussi, d'ailleurs. Mais non, c'est vrai que, en fait, pour résumer, je pense que tout le monde a fait son boulot, quoi. Puis on sentait quand même beaucoup beaucoup de solidarité sur le terrain. C'est allé se foutre dans la gueule de Cavallini quand il fallait aussi. Donc tout ce qu'on n'a pas vu contre Toronto, on l'a vu contre Vancouver. Quoi. On dirait que cette équipe-là s'est soudainement réveillée. Et puis ça a vraiment beaucoup paru sur le terrain.
On parle de solidarité, d'état d'esprit. Continuons un petit peu sur la tactique. Je vais te laisser la parole, Eric, parce que tu l'as déjà abordé en début d'émission. Mais l'évolution de ce système, on voit aussi que au début, on sentait une équipe qui était pas prête et on pouvait mettre certains doutes aussi par rapport au système de jeu. Hier, ça a clairement fonctionné. Mais qu'est-ce que tu as vu comme changement les plus importants finalement entre le premier et le deuxième match contre Vancouver?
C'est dans l'attitude principalement. Hein. C'est dans la prise de risque. Je pense que surtout au niveau de la compréhension des rôles, je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant pour les joueurs que ce l'était à ce premier match-là. Même nous, on regardait ça de l'extérieur et puis on comprenait pas trop où ça s'en allait. Je pense que là, contre Vancouver, à Vancouver, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. On sentait aussi beaucoup de prise de risque, ça se portait énormément vers l'avant, donc il y avait du nombre dans la surface et aux abords de la surface, et puis tout de suite, ça facilite le jeu, la circulation du ballon et tout ça. Il y a plus d'options, il y a plus de rythme, plus de mouvement. Donc c'est surtout, en fait, je pense que le joueur qui représente le plus la transformation, je pense que c'est Samuel Piette. Samuel Piette, au début, c'était compliqué parce que c'est vraiment pas un costume qui est fait sur mesure pour lui. Mais à Vancouver, on dirait qu'il a cessé de se poser des questions et qu'il a fait comme vous savez quoi, on me demande d'attaquer, je vais attaquer et puis ça donnera ce que ça donnera. Et puis ça a donné des résultats. Je pense que c'était un petit peu l'état d'esprit général qu'on pouvait voir à Vancouver. C'était, il faut marquer des buts, on va aller marquer des buts, on va voir ce que ça va donner. Et puis, ils en ont marqué 4. Donc, je pense que c'est en grande partie une question d'attitude, en fait.
J'ai rien à rajouter, j'abonde complètement dans ton sens.
ça aussi, ça va être aussi intéressant de le voir face à un autre adversaire, dans la mesure où à Vancouver, Ouzou, que j'ai trouvé très très bon à Orlando, parfois il se retrouve tout seul à faire certaines tâches au milieu de terrain et il est complètement débordé. D'ailleurs, contre Toronto, bah, un des matchs à Toronto où ça a été assez mal, la première mi-temps a été catastrophique et lui avait été catastrophique parce qu'il voulait tout faire, parce que c'était à lui quasiment tout faire. Et puis en deuxième mi-temps, il a carrément abandonné Michael Bradley. Il a dit bon, bah, Bradley, je m'en occupe plus parce que je peux pas tout faire. J'imagine c'est une instruction qui lui a été donnée par Marc Dos Santos et ça a été beaucoup mieux pour lui. Et donc là, le pauvre Ouzou, il s'est de nouveau fait déborder, et s'est passé un petit peu de partout. Et de nouveau, je le blâme pas. Je trouve que quand il est dans des bonnes conditions, ça va bien. Et voir l'impact contre un autre adversaire mieux organisé, ça va permettre justement de montrer encore plus ses progrès et de se faire une meilleure idée. Parce que là, évidemment, on a la comparaison contre Vancouver et on le voit qu'il y a des progrès. C'est clair, net, précis. Puis c'est facile de comparer contre le même adversaire. Et je pense que là, le palier à franchir, c'est pas directement Toronto. Le palier à franchir, justement, c'est des adversaires comme New England et New York. L'impact va affronter d'ici la fin du mois de septembre. Et on voit, pour en revenir à ma question initiale, aussi que certains joueurs arrivent à porter le système dans un rôle qu'ils ont vraiment adopté sur mesure. Et le premier auquel je pense, c'est vraiment Romel Kyoto, qui est déjà une satisfaction en soi depuis le début de la saison. On lui a demandé de faire plein de choses différentes et il les a presque toujours faites avec succès. Et là, il joue côte à côte. Ça a été avec la Palainen lors de quasiment tous les matchs, sauf le dernier où c'était avec Okonkwo. Peu importe, ça se passe bien. Il est à la finition, il est aux passes décisives, il bouge, il est mobile, il pèse sur les défenses, il fait reculer les adversaires, chose qu'on a trop rarement vu aussi à Montréal depuis quelques années, depuis le départ de Didier Drogba. Donc c'est bien. Et Tyder aussi, je trouve qu'il apporte beaucoup dans le rôle qu'il a depuis quelques semaines. Et c'est assez intéressant parce que lui, je pense que c'est lui qui, toi tu parlais de Samuel Piette, et Eric, je trouve que Tyder aussi illustrait beaucoup cette évolution en fait, parce que au début, ben, il savait pas trop quoi, parce que bon, Tyder, on l'a dit, hein, il voulait toujours faire beaucoup de choses et compenser un petit peu les faiblesses, sauf que là, c'est fini, il faut plus que tu compenses les faiblesses des autres, chacun a un poste et une tâche bien assignée, puis s'il s'en sort pas avec, tant pis pour lui, puis on voit que c'est un petit peu ce qui se passe. Et là, Tyder, finalement, on le voit faire des choses qui sont souvent les mêmes, notamment, par exemple, passer sur la gauche. Hein. On se souvient, lors du premier match, c'est lui qui donne un centre de la gauche, qui donne le but. Et là, lors du dernier match, de nouveau, il va sur la gauche et puis il donne le centre qui permet à Samuel Piette de marquer son but. Donc, il est de plus en plus concentré sur ses tâches, à lui, aux choses qui lui sont assignées, et il peut se mettre de plus en plus en avant. Et on en avait parlé déjà quelques fois lors de cette émission, de dire que si on trouvait quelque chose à Tyder qui pouvait lui convenir sur mesure, c'était comme ça qu'il pouvait le plus apporter à l'équipe. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et là, il faut féliciter aussi Thierry Henry qui commence à mettre chacun à sa place, bah pas à sa place en fait, non, même pas, mais dans un rôle où il peut apporter quelque chose à l'équipe en fonction des joueurs qui sont à la disposition, en fonction des joueurs qui sont dans l'effectif. Et on peut évidemment, on doit évidemment parler de Samuel Piette. Tu en as parlé un petit peu, Eric. Je ne sais pas si tu voudras redire quelque chose à son sujet, mais tu es évidemment le bienvenu. Qui, je pense, à Vancouver dimanche dernier, a joué un de ses meilleurs matchs, si pas son meilleur match, sous le maillot montréalais, parce que pas seulement en raison de son but, hein, il est impliqué dans 3 des 4 buts. Faut pas oublier que oui, il donne une passe décisive, mais sur le premier but, sa balle en profondeur pour Kyoto. Eric, t'habites à Hochelaga, moi j'habite à Verdun, je t'ai entendu crier oui Samuel, c'est ça qu'il faut faire à travers toute l'île de Montréal. C'est
à peu près, oui.
Oui, non, mais c'est ça, et il est à l'origine de ça, et sans lui, le but d'ouverture, il y en a pas. En tout cas, pas à ce moment-là. Le premier but montréalais. Donc, c'est très, 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 très bien. On voit qu'il élargit sa palette. Avant le match, je vais dire honnêtement, je pensais tout seul à Piette, et puis je me dis, peut-être que le costume n'est pas fait pour lui, et peut-être que finalement, on verra qu'au bout du compte, ça ne marche pas. Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, avec ça, en occupant ce rôle-là, il va progresser, il va devenir un meilleur joueur. Et si jamais il doit réoccuper le rôle qu'il occupait précédemment, que ce soit à Montréal ou ailleurs, si Wanyama reste, enfin, ou en équipe nationale, ou peu importe, tout ce que vous voulez, il sera meilleur qu'avant, et ça, on pourra remercier Thierry Henry. Et là, si en plus il arrive à occuper un rôle différent, on va voir avec la longueur, on va voir contre d'autres adversaires et tout, c'est évidemment encore mieux, mais c'est clair que, de toute façon, il a beaucoup, beaucoup progressé en quelques semaines, et il l'a montré surtout en condition de match à Vancouver, et on demande tous évidemment qu'une seule chose, c'est que ça se confirme.
Ouais, t'as bien fait de souligner le rôle de Thierry Henry dans l'évolution de Samuel Piette, parce qu'il l'a défendu, il l'a maintenu, il lui a maintenu sa confiance, et il a même mis devant ses responsabilités, puisque là aussi, publiquement, on parlait de communication tout à l'heure, mais il a aussi communiqué sur Samuel Piette en disant il va apprendre son nouveau rôle, il faut qu'il intègre les nouveautés. Et je me demande, mais ça va demander encore un peu de confirmation, puis j'aimerais même bien en parler avec Samuel Piette, là j'ai pas eu l'occasion, on a plus accès aux entraînements, etc., mais quand Samuel Piette est arrivé, défensivement, il avait des lacunes au niveau du placement, notamment je trouvais que son placement était vraiment aléatoire dans ses premiers matchs à Montréal quand il est arrivé d'Espagne, et je trouvais que l'influence de Donadel et les conseils de Donadel avaient permis de le faire progresser et tranquillement de lui faire prendre sa place au sein de l'équipe. Et je me demande si l'influence de Wanyama, qui justement a un peu plus cette attitude à se porter vers l'avant, à prendre plus de risques dans ses relances, etc., commence pas à avoir un petit peu le même effet. Alors peut-être que je me trompe, il va falloir que ça se poursuive et évidemment avoir les confirmations, mais je me demande si on peut pas faire un parallèle entre ces deux situations.
Je rajouterais aussi que sous Rémy Garde, Samuel Piette a beaucoup évolué, donc là on commence à avoir beaucoup de noms, tiens, il y a eu l'influence de machin, hein, tu parles de Donadel, c'est tout à fait vrai, Rémy Garde, Thierry Henry, peut-être Wanyama, ça c'est à confirmer peut-être avec le joueur. Mais ça en dit long aussi sur Samuel Piette, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à l'écoute des conseils, qui essaye de les appliquer, parfois il peut, parfois il peut pas, et il est pas fermé. Et évidemment, c'est quelque chose qui lui permet de progresser dans sa carrière, lui permet d'évoluer comme joueur, et ça c'est un autre atout pour lui.
Il faut pas oublier non plus l'influence fort probable de Patrice Bernier, parce que le rôle qu'il occupe actuellement, Samuel Piette, c'est quelque chose qui est fait un peu sur mesure pour Patrice Bernier, je trouve, personnellement. Donc, c'est sûr qu'il doit bénéficier des conseils de Patrice.
Et une autre chose, bon, c'est sujet à débat et c'est assez subjectif comme opinion, mais c'est la mienne quand même. C'est encore à mettre au bénéfice de Thierry Henry. Je pense que c'est une bonne idée qu'il a eu d'enlever le brassard de capitaine à Samuel Piette, parce que justement, au lieu de se concentrer sur son rôle d'ambassadeur, sur son rôle de capitaine sur le terrain, tout ce qui est quand même quelque chose qui prend de l'énergie, de l'influx, mais il peut se concentrer sur son jeu, sur sa progression, et mettre toute son énergie sportive là-dedans, parce qu'extra sportif, on sait bien que il a une nouvelle vie de famille, il a de nouveaux bonheurs qui l'occupe et qui lui consacre aussi beaucoup d'énergie. Quentin peut en parler, hein, ce que c'est d'être un jeune papa.
Sans commentaire.
Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que quand il est au centre d'entraînement et quand il est sur le terrain, quand il est dans le vestiaire, Samuel Piette peut se concentrer sur les progrès qu'il a à faire sur le terrain, et on les voit, et c'est tout bon, autant pour lui, pour sa carrière à long terme, que pour l'Impact de Montréal. Bon, on a parlé de Vancouver-Montréal, donc parlons, pour continuer, de Vancouver-Montréal. Et oui, deux matchs contre le même adversaire sur le même terrain en quelques jours. En temps normal, ça ne ferait pas sérieux, mais là, on sait qu'on est dans des circonstances exceptionnelles et que c'est tout à fait logique d'avoir organisé ça comme ça. Donc, messieurs, qu'attendre du match de ce mercredi à Vancouver? Est-ce que ça va être une copie conforme de ce qu'on a vu? Et, parce que finalement, la balle est dans le camp de Marc Dos Santos, que doit faire l'entraîneur des Britanno-Colombiens pour éviter que ça se répète et pour son équipe mettre un peu plus de bâtons dans les roues de l'Impact?
Bah, du point de vue de Marc Dos Santos, le dernier match n'est pas très reluisant, hein, il faut le dire. Quand tu fais une quadruple substitution, c'est parce que les mecs que tu as mis sur le terrain n'étaient pas les bons, visiblement. Hein. Donc, courage à lui pour la suite, mais s'il y a un entraîneur en MLS qui a besoin de résultats, c'est bien Marc Dos Santos en ce moment. Donc ça, il faudra faire attention du côté de l'Impact. Je pense que le match, à mon avis, ne s'annonce pas aussi facile que celui de dimanche. Donc faire attention à ça, faire attention à ce que Mark Dos Santos a dans sa manche. Aussi, on a joué contre Cavallini. Cavallini sera pas là, donc il faut s'attendre à jouer contre Montero. Puis ça, c'est une autre paire de manches aussi. C'est pas non plus le dernier venu. C'est un joueur qui joue un peu différemment. Donc, s'adapter à ça, ça va être une des principales choses à surveiller, à mon avis.
Ouais, je suis d'accord sur Montero, j'allais l'évoquer, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mon cher Eric. Aussi, réussir à couper les transmissions, c'est important. Il faut que son milieu de terrain soit beaucoup plus dense, beaucoup plus agressif, beaucoup plus efficace, qu'il arrête de perdre des ballons n'importe comment. Pour justement s'éviter d'avoir à essayer de contrôler Kyoto ou Okonkwo, parce que Kyoto notamment a vraiment pris le dessus sur les défenseurs, etc. Donc plutôt que d'essayer de contrer l'attaquant, il vaut mieux couper, à mon avis, la source de l'action et donc éviter la transmission dès le milieu de terrain, parce que sinon ils vont prendre le bouillon comme ils l'ont pris cette fois-ci. Et puis sur Cavallini, c'est sûr que c'est un bon joueur, mais un bon joueur qui fait pas grand-chose jusqu'à présent. Donc c'était un peu le faux ami de Vancouver, Cavallini, ces derniers temps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'espoir en lui parce qu'on sait qu'il peut être bon, mais il l'est pas. Là, maintenant qu'il est pas là, ils vont devoir faire sans lui, donc il va falloir quand même sérieusement faire attention à la façon dont ça va se dérouler offensivement du côté de l'Impact, enfin en tout cas offensivement du côté de Vancouver, mais il va falloir faire attention du côté de l'Impact.
Et en plus Montero a un coup à jouer aussi pour reprendre une place dans le 11 là. Donc Cavallini, c'est pas non plus c'est pas 25 buts en 4 matchs là, c'est difficile pour lui. Donc Montero qui a été laissé de côté, on sent que c'est difficile pour lui à Vancouver en ce moment, mais pour lui c'est l'occasion de se ramener un petit peu sous les projecteurs. Donc c'est là-dessus que, si j'étais Mark Dos Santos, je miserais peut-être un petit peu plus sur le jeu de Montero, essayer de voir s'il y a des moyens, des choses à exploiter de ce côté-là pour essayer de faire bouger la défense un peu.
Ouais, et puis Montero, et puis je rajouterais aussi Reyna, parce que c'est facile ni pour l'un ni pour l'autre à Vancouver, c'est facile pour aucun attaquant à Vancouver en ce moment, de toute façon, mais je pense que Cavallini, mais je vais en reparler après de Cavallini, mais pour Montero et Reyna, je pense qu'ils en sont un petit peu responsables, voire coupables, faut pas oublier que Reyna a été suspendu par l'équipe il y a pas longtemps pour manque de respect des règles disciplinaires. Montero, il est méconnaissable depuis qu'il est arrivé à Vancouver, même quand c'est des matchs pour lui. Donc là, ils ont vraiment une place à récupérer dans l'équipe, comme vous le dites, parce que pour le moment, Cavallini, je suis d'accord, mais il y avait aussi Théobert, qui est un jeune joueur beaucoup moins expérimenté, qui a été titularisé un dimanche contre Montréal, et c'était ni Montero, ni Reyna. Donc ça en dit long aussi sur le fait qu'ils sont assez bas dans la hiérarchie, et c'est à eux de prendre les choses en main. Cavallini, je pense que si vous voulez comprendre ce qui se passe avec Cavallini ou avec Vancouver, je vous inviterai à lire les deux pages à son sujet dans le Québec Soccer du mois. Et je pense que ça explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pourquoi ça va pas très bien pour Cavallini à Vancouver en ce moment. En revanche, sans lui, c'était un petit peu la situation finalement de Vancouver au match en Floride, et où ils ont défendu bec et ongles. Et peut-être que, parce que tout à l'heure on parlait du milieu de terrain, et vous en parliez tous les deux, je pense que ça revient un petit peu à ce que j'expliquais plus tôt dans l'émission avec Owuzu qui a été complètement noyé. Owuzu, faut lui donner du soutien. Je suis totalement d'accord avec toi, Quentin, quand tu dis qu'il faut densifier le milieu de terrain et couper les sources d'alimentation vers les joueurs offensifs de l'Impact, parce que sans ça, on a vu que c'était compliqué. Et donc, Owuzu, il lui faut quelqu'un pour l'aider, parce que sinon, le pauvre garçon, il va encore se faire noyer, et puis ça va déjà être fini. Je pense que c'est la première chose à faire. Et l'autre chose à laquelle je m'attends, parce qu'on sait que Mark Dos Santos, il a certains atouts, on va dire, de motivation ou mentaux dans sa manche, et je serais pas surpris que, justement, il essaye, vu que Cavallini n'est pas là, et que finalement, oui, il y a 3 points à prendre pour Vancouver, mais déjà en prendre un, ce serait pas mal, de donner une mission à son équipe. La première, c'est de protéger Assal et de lui redonner confiance, parce qu'il a raté son match. Et la deuxième, c'est justement que l'Impact ne gagne pas et ne se qualifie pas pour la finale de la Coupe du Canada. Et finalement, même si Vancouver ne prendra qu'un point, ils auront gagné. Et demander finalement à son équipe de jouer comme ils ont joué à Orlando, où c'était pas académique, c'était à 11 derrière, ils étaient quasiment à 11 dans leur but, bah, comme en début de match contre Montréal, et ils ont quand même ouvert la marque, comme en début de match contre Toronto, ils ont ouvert la marque, finalement ils ont gagné. Et donc, bah, peut-être de faire ça tout le temps et de reproduire ça, mais je pense que c'est ça, il faut que les joueurs de Vancouver se sentent au septième ciel pour arriver à faire quelque chose, et ça va aussi beaucoup se passer dans la tête, parce que dans les pieds et sur le terrain, malheureusement, on a vu qu'ils étaient beaucoup trop courts.
L'Impact a quand même des faiblesses, et il va falloir que, pour Vancouver, appuyer là-dessus s'ils veulent faire quelque chose, parce que c'est sûr que Brouillard a toujours cette tendance à monter et puis à parfois laisser quelques boulevards derrière lui, même si ça s'est moins vu contre Vancouver, mais ça c'est quand même une chose. Rudy Camacho, il est pas en confiance depuis plusieurs matchs, il fait des erreurs sur les 4-5 derniers matchs, c'est quasiment au minimum une erreur par match. Donc après, évidemment, ça va dépendre de la composition de Thierry Henry, parce que Thierry Henry fait pas beaucoup de changements. Peut-être que les organismes des mecs qui jouent tous les matchs vont peut-être en prendre un petit coup, donc on peut peut-être s'attendre à quelques changements. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, il y a quand même des enseignements au niveau des faiblesses de l'Impact, des enseignements à tirer. Raïtala est sérieux, appliqué, mais peut apporter plus. On peut quand même le mettre en difficulté, Raïtala. Donc il y a quand même des éléments sur lesquels Marc Dos Santos et son équipe peuvent s'appuyer pour faire du mal à l'Impact de Montréal. Il faut quand même aussi replacer ça. L'Impact, c'est très encourageant, c'est très bon ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais c'est pas parfait, loin de là.
Tu parles de l'Impact, Quentin, on va rester là-dessus, puis t'as répondu partiellement à la question. Que faire si on est à la place de Thierry Henry? C'est vrai que la composition d'équipe, est-ce qu'elle va changer ou pas? Il y a juste eu Okonkwo à la place de Lapalainen, donc on peut peut-être s'attendre à voir le Finlandais être titulaire mercredi. Maintenant, est-ce qu'il va faire tourner alors qu'il a trouvé un 11 qui lui donne satisfaction et que il y a pas énormément d'autres options? Ben, si, il y en a, mais quand on a les joueurs qui font la bonne chose au bon moment, c'est compliqué. Évidemment, il va falloir remplacer Maciel, qui sera suspendu. En revanche, et ça c'est quelque chose de très intéressant quand même pour Thierry Henry, il doit sûrement dans sa tête dire merci Marc Dos Santos d'avoir fait tous ces changements, parce que il a pu voir finalement tous les atouts de Vancouver à l'œuvre sur un match de 90 minutes, et je ne serais pas surpris, connaissant Thierry Henry et son amour pour le ballon rond, qu'il ait regardé encore avec beaucoup d'attention juste la prestation de Vancouver contre l'Impact, histoire de déceler les forces et les faiblesses de pas de 11 joueurs mais de 16 joueurs de Vancouver, et en se disant bon, lui il a ça comme force comme faiblesse, et de trouver évidemment là où c'est faible, peu importe qui est sur le terrain. Et justement, peut-être que s'il veut faire des changements et adapter son équipe, mal adapter en fonction aussi des faiblesses de Vancouver, sans s'adapter à Vancouver, attention, c'est important la précision, parce que s'il nous écoute là, ça aussi, c'est le genre de choses où il dit « Ouais, mais non, je m'adapte pas, machin et tout. » Non, je dis pas qu'il s'adapte. Je dis qu'il va garder la même philosophie, mais qu'après, dans les détails, dans des façons d'exécuter certaines choses, peut-être, justement, faire les choix en fonction des faiblesses de l'adversaire.
Oui. Pour ma part, je m'attends pas à avoir beaucoup de changements dans le 11. Je pense que ce qui était sur le terrain mercredi dimanche, ça fonctionnait quand même très bien. Bon, maintenant, comme tu as dit, il faut remplacer Maciel, mais je pense que le seul candidat plausible, c'est Chami Tchoum. Je pense que c'est celui qu'on a vu le plus souvent jusqu'à présent dans un rôle semblable. En plus, il est monté en fin de match, si je ne me trompe pas, donc ça serait pas mal le remplaçant que je verrais, mais faut se poser la question, à savoir s'il y a pas quelques joueurs là-dedans qui mériteraient de souffler, enfin, pas nécessairement mérité, mais qui auraient peut-être besoin de souffler. Donc ça, il y a des choses qu'on ne sait pas non plus. En plus, avec le contexte particulier là de la fumée qui présente dans la région de Vancouver et tout ça, est-ce qu'on peut vraiment compter sur les joueurs à 100% en ce moment? Ça, c'est une autre question. Donc est-ce que Thierry Henry va essayer de jouer peut-être sa main en gardant des atouts pour la deuxième mi-temps, peut-être, je sais pas, éventuellement mettre quelqu'un d'autre à la place de Kyoto et le garder pour la dernière demi-heure si ça se passe mal, sachant qu'il y a d'autres matchs qui arrivent en succession rapide après aussi, il faut pas l'oublier, donc ce serait pas impossible, même si Kyoto, il a l'air quand même très indélogeable, étant donné qu'il y a absolument personne sur le banc pour venir faire le même travail que lui. Mais bon, je serais pas surpris quand même qu'on essaye peut-être de ménager un ou deux joueurs là dans le lot.
On verra ça, réponse mercredi. On a parlé des deux matchs contre Vancouver. On va quand même revenir brièvement sur la défaite contre Toronto. Messieurs, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire de particulier. Je vous laisserai la parole après. Moi, je vais commencer à parler du but, du fameux but encaissé à la dernière minute et de l'erreur de Camacho. C'est une énorme erreur de Camacho. Mais je veux dire qu'il n'est pas seul à blâmer. Ça diminue pas le blâme qu'il doit prendre pour cette erreur, mais ça, je pense que tout le monde l'a vu, on en a assez parlé, écrit et tout, mais je suis désolé, le ballon, il arrive, la passe qu'il fait à, je sais pas moi, 65 mètres du but de Diop. On a Wanyama, le ballon lui passe à côté, puis il continue de marcher, il y a personne qui est attentif, en fait. Le ballon arrive dans les pieds de Deleon, c'est Maciel qui est le plus près, puis il regarde Deleon sans vraiment réagir, parce que de nouveau, au moment où Camacho donne le coup franc, il le donne très mal, mais il y a presque personne qui fait attention. Puis après, il y a Altidore qui détale et qui prend les défenseurs de vitesse qui les surprend. Là, à la limite, je vais même donner le crédit à Altidore pour ça, en se disant que les défenseurs, finalement, ils ont peut-être fait de leur mieux et que c'est Altidore qui a eu le dessus. Mais le ballon ne doit jamais arriver à Altidore quand on voit d'où il part. Ça aussi, il y a quand même eu d'autres erreurs, pas aussi graves que la maladresse de Camacho, mais bon, quand on a un coup franc comme ça, oui, on ne le donne pas n'importe comment, d'accord, mais aussi on est attentif parce que bon, ben, un accident est vite arrivé et justement c'est un sport d'équipe, on joue en équipe et normalement il faut qu'il y ait quelqu'un pour rattraper les conneries du partenaire et là ça n'a pas été le cas non plus.
Non, je te suis pas, Mathias. Camacho, il n'y avait pas le droit là-dessus. Il avait pas le droit.
Ah, mais je dis pas que Camacho avait le droit, hein. Je n'enlève rien du blâme que Camacho prend, mais après, c'est pas fini. Il y a d'autres choses.
Tu dois maîtriser, tu joues, il reste une minute à jouer, t'as un résultat positif face à une équipe qui est plus forte que toi, t'as un coup franc. Tu vois que les mecs autour de toi ne sont pas à leurs affaires. Attends. Ou alors, joue sécurité. Mais fais pas une relance dans l'axe d'une frappe de U12 asthmatique, là. C'est pas possible de faire un truc pareil. Je veux dire, t'as pas le droit. D'autant plus que, attention, c'était pas la première, hein. Parce que le carton rouge qui est devenu jaune de Maciel dans le match précédent contre Toronto, c'est Camacho qui fait la relance aussi là-dessus. C'est pas la première fois qu'il fait des relances comme ça dans l'axe. C'est juste factuel ce que je dis, hein. Et deux matchs de suite, et ça a eu des conséquences. Alors Maciel, évidemment, c'était pas un attentat et il méritait pas un carton rouge, Maciel, sur la faute qu'il a fait contre Toronto. Au final, il l'a pas eu, ça a pas eu les conséquences désastreuses. Contre Vancouver, il méritait le rouge. C'est une autre histoire. Mais j'espère que déjà on lui avait dit de plus faire des choses comme ça, parce que ça aurait pu avoir de très graves conséquences quand même, ce carton rouge. Le match suivant, il l'a fait. En plus, c'est un cadre, hein, Camacho. Il a tout pour être un cadre, hein. Ça fait des années qu'il est là. Il a de l'expérience, etc., etc. Donc, normalement, un cadre, c'est justement celui qui ne commet pas ce genre d'erreur. Et encore moins, je devrais dire, ça peut arriver une fois, mais qui ne cumule pas ce genre d'erreur. Donc, Camacho, en ce moment, il est pas dans son assiette. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est pourquoi Camacho continue à jouer et que Fanny continue de rester sur le banc. Je me pose des questions sur l'état de forme de Rod Fanny. Parce que, étant donné ce que Camacho montre, et sur les faits, hein, je me base pas, c'est pas, ah, il aime pas, il l'a dans, non. À un moment, il faut quand même, regarder les matchs. Et puis, on les a tous vus, les erreurs de Camacho. Comment ça se fait que Fanny reste encore sur le banc? Je mets pas le blâme sur Thierry Henry parce que Thierry Henry fait suffisamment de bonnes choses pour sans doute avoir de bonnes raisons de mettre Fanny sur le banc. Mais je me pose quand même la question, quid de Fanny? Dans quel état il est, notre ami Rod?
Avant de céder la parole à Eric, je voudrais quand même préciser deux choses. J'en enlève aucune part du blâme à Camacho, je le dis. J'ai dit qu'il est après, il y en a d'autres qui auraient pu rattraper le coup, qui ne l'ont pas fait non plus, et que ça, il faut pas l'oublier. Et la deuxième chose, c'est que par rapport à Camacho, il pourrait aussi remettre Raïtala en défense centrale et mettre Corrales à gauche, qui ne fait pas non plus.
Je suis assez d'accord avec Quentin. En fait, je pense que je fais pas la même lecture que toi, Mathias, là-dessus. Je pense pas que les autres aient un coup à jouer. Là, ça se passe tellement vite. C'est sûr que bon, il faut que tu sois concentré du début à la fin. Mais sur ce coup-là, mon Dieu, tout indique que Camacho doit jouer court. Tout. et à la place, il décide de faire une transversale vers deux types qui regardent même pas le ballon, alors qu'il y a quatre défenseurs de Toronto autour d'eux, et puis il rate complètement son coup. Je veux dire, d'accord, il y a peut-être quelques gars qui auraient pu réagir autrement sur le terrain, et peut-être que, ouais, du bout du pied, ils auraient pu dévier le ballon, ou... mais à la base, il a pas joué ça. Il doit pas jouer ça. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde est surpris. C'est parce que il y a absolument personne qui s'attend à ça. Parce qu'il doit pas jouer comme ça. La majorité de ses coéquipiers sont cantonnés sur le flanc droit devant lui. Et il joue complètement de l'autre côté du terrain où il y a presque personne. C'est, à un moment donné, c'est courir après aussi, quoi.
Ah oui, mais comme je vous dis, je ne dis pas le contraire du tout, et puis je n'enlève aucunement la part de blâme qui revient à Camacho. D'autres choses à dire sur le match contre Toronto, parce qu'il n'y a pas eu que ça, et l'Impact a quand même marqué, puis a quand même tenu le trajet haut à Toronto.
On va revenir quand même au but d'Altidore, quoi. Le but d'Altidore, déjà le but il est très beau, il faut le dire, hein. C'est quand même un joli but. C'est bien joué, c'est bien fini. Par contre, après, quand il s'en va faire le guignol devant la tribune, une millième fois en 3 ans, et qu'il y a encore une millième fois personne qui va se foutre dans sa gueule, quel est le problème de cette équipe? C'est pas possible, quoi. C'est sur ton terrain, c'est le type qui arrête pas de se foutre de la gueule de ton club depuis des années, qui rigole de tes supporters, qui sont même pas nombreux, ils sont quelques-uns, là tu peux même les reconnaître facilement de loin, tellement qu'il y a personne dans ce stade, et personne en a rien à foutre. Après, et je vais le dire pour une millième fois aussi, arrêtez de venir me parler de rivalité, là il y en a pas de rivalité, c'est pas possible. C'est inconcevable, quoi, qu'on continue à nous bassiner avec des derbies et puis des classiques canadiennes et des...
Et pourtant, Altidore, il fait tout justement pour l'attiser, mais...
Bah ouais, là
c'est ça. Et il y a personne qui réagit jamais. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est une vaste blague, là. T'as le capitaine, là. Il y a un type qui a été nommé capitaine en début d'année, là. Je sais qu'il mesure la moitié de la hauteur de Altidore, mais quand même, il est juste à côté, quoi, avec le brassard de capitaine. Il faut bien que ça représente quelque chose, ce truc, à un moment donné, là. T'es supposé représenter ton équipe, défendre tes coéquipiers, défendre les couleurs de ton club, de la ville qui est associée, des supporters et tout. Oh merde, on a encaissé, c'est pas grave, on va voir qu'est-ce qu'on va faire à l'entraînement demain pour régler ça. C'est pas sérieux.
Ah, je pense que dans sa tête, c'était pas ça, c'était « Oh putain, Rudy, t'as déconné, là ?»
Ouais.
Possiblement, ouais. Mais bon, c'est encore un autre exemple où les Montréalais se font marcher sur le dos et puis il y a absolument personne qui réagit, quoi.
En tout cas, Eric ne pouvait pas passer une émission sans exprimer un petit peu d'énervement à droite à gauche. Et là, je crois que tu as touché le point sensible, mon cher Mathias, sur le match contre Toronto et la réaction d'Altidore. Moi, je remercie Altidore quand même de faire ce genre de bêtises parce que c'est pas bien méchant et c'est de la provocation. C'est de la provocation, comme il en faut. La dernière fois, la dernière émission, j'ai dit que le soccer était un jeu d'humiliation. Ça en fait partie, tout simplement. Et ça entretient quand même un peu ce côté rivalité. Et je suis d'accord avec Eric, elle n'existe pas. Si Altidore n'était pas là, il y en aurait aucune. Et finalement, heureusement qu'Altidore est là pour quand même mettre un petit peu de piment. Alors c'est vrai qu'on aimerait connaître, avoir quand même un joueur qui montre un petit peu ce caractère-là. Après, tomber sur Raïtala, bon, peut-être il avait pas envie de prendre un carton jaune, je ne sais pas. il avait déjà compris que c'était le but de trop et qu'il était un peu abattu. Bon, peu importe. Mais ça reste anecdotique. Moi ça m'a fait marrer la réaction d'Altidore. Et puis, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Mais qui te dit que quand Piet marque au BMO Field la prochaine fois, ça pourrait être tout à fait le genre de gars. Peut-être pas aussi de façon vindicative qu'Altidore, mais quand même à faire un petit clin d'œil par rapport à ça. Il est pas dit que les joueurs s'en foutent complètement. J'abonde pas forcément dans ce dans ce côté-là. Une chose est sûre, c'est sûr que voilà, Altidore est l'homme qui fait vivre la rivalité en ce moment. Pour en revenir juste un petit mot sur le match et ta question initiale finalement, Mathias, j'ai trouvé que malgré la défaite, due à un coup du sort, une erreur de Camacho, mais malgré la défaite, le match avait quand même été intéressant. C'était un peu la lignée des progrès qu'on entrevoyait. Je trouve que évidemment Toronto c'était un autre adversaire, c'était pas Vancouver, mais il y avait quand même des choses intéressantes qui se sont mises en place. L'Impact a quand même tenu la dragée haute à une bonne équipe de la MLS, donc il y avait eu aussi un progrès, je trouve, par rapport au match précédent face à Toronto. Donc malgré la défaite, je suis sorti de là en me disant que c'était pas si mal, et ça me confortait dans l'idée que tranquillement l'Impact devient une équipe de milieu de tableau de la MLS, ce qui est encourageant quand on regarde de là où ils viennent.
Qui de milieu de tableau de la MLS, on avait fait un point sur les satisfactions et les déceptions il y a pas très longtemps, et on avait dit tiens, les satisfactions, ce sont les joueurs qui ont été amenés par Olivier Renard au cours des derniers mois. Et justement, il y a ce matin, ce lundi matin, puisque c'est lundi qu'on enregistre, un article, une interview d'Olivier Renard par Dave Lévesque dans le Journal de Montréal pour faire avec lui le bilan de son année à l'Impact. Et tiens, ça nous a inspiré en fait notre coup franc de la semaine, puisque Olivier Renard est arrivé le 28 septembre dernier. Alors c'est pas un an jour pour jour, mais c'est quand même un an. Et donc, simplement, on va pas la faire longue, pas faire une émission spéciale bilan, parce qu'il y aurait clairement moyen de la faire. Puis les satisfactions, les déceptions, on en a déjà parlé, point de vue joueur. Mais messieurs, finalement, l'an 1 d'Olivier Renard à l'IMFC, un coup franc en pleine lucarne, droit dans le mur, ou autre sorte de coup franc?
Je pense que c'est pleine lucarne pour moi. C'est quand même assez clair. Puis je pense qu'on en a parlé dans l'émission précédemment. Je pense que la grande majorité des joueurs que Renard a amenés sont ceux dont on parle semaine après semaine, parce qu'ils font des choses sur le terrain, parce qu'ils amènent quelque chose, parce qu'ils contribuent, et non pas parce qu'ils sont mauvais. Donc voilà, je pense que juste ça indique que c'est un mercato réussi. Je pense que la seule arrivée qui n'a pas vraiment porté fruit, c'est Steven Sabah, je pense. Puis il était blessé, donc c'est difficile de juger dans ce cas-là. Mais je pense que globalement, je pense c'est difficile de dire que c'est pas réussi, quoi.
Ouais, pleine lucarne aussi, on en a parlé il y a pas longtemps, c'est sûr que toutes les arrivées, c'est quasiment du 100%. Après, maintenant, il y a des choses qu'on aimerait d'abord continuer de voir, c'est-à-dire des jeunes qui arrivent, qui font leur place, etc. En plus, il y a une certaine logique, parce que quand on lit l'article de Dave, il indique bien que, par exemple, le départ de Sania est rentré dans la perspective de vouloir intégrer des jeunes et de leur faire une place et de leur donner des minutes, etc. pour les faire progresser, et là-dessus il a réussi. C'est vrai que j'étais attristé du départ de Sania, qui était vraiment un joueur qui apportait des choses, mais il faut aussi donner le crédit à Olivier Renard d'avoir tenu ce cap-là. Après, on l'attend sur d'autres choses, évidemment, les ventes, puisque ça c'est quand même un élément important. C'est sûr qu'il y a des il y a des joueurs qui prennent énormément d'argent, beaucoup de place, et qui sont là et qui vont être difficiles à déloger, mais il va falloir le faire pour continuer à avoir une équipe compétitive et à bien investir l'argent sur les joueurs qui font de grosses différences, tel Wanyama. Mais globalement, c'est ça, et c'est bon. Une dernière chose que j'ai relevé dans l'article de Dave, qui m'a un peu fait tiquer, sur lequel j'attends quelque chose d'Olivier Renard, il est mentionné que Romel Kyoto, il est là pour un court contrat. C'était le deal, parce qu'il y avait comme une part de risque un petit peu, parce que Romel Kyoto est arrivé avec une réputation un petit peu délicate, et manifestement, c'était plutôt de court. Il va falloir, à mon avis, sécuriser Romel Kyoto rapidement, parce que toutes les semaines on en dit du bien, et c'est clair que c'est un élément désormais important de l'effectif.
Ouais, de mon côté aussi, vous avez déjà dit énormément de choses. C'est pas tout à fait pleine lucarne, mais vraiment juste à côté. dans le but, hein, évidemment, pas à côté. À côté du but. Mais pour toutes les raisons que vous avez évoquées, j'en rajouterai même une, c'est que les joueurs arrivés non seulement sont satisfaisants, mais en plus ils apportent une plus-value à l'équipe, à des places où il y en avait besoin ou à des places cruciales. Et ça permet d'évoluer, ça permet de ne pas avoir, oui, 15 bons joueurs à la même position et puis des gros trous, même si il reste quand même certains trous à certaines positions, mais on voit qu'il y a une évolution dans le bon sens et finalement Thierry Henry a réussi à compenser aussi les trous qu'il y avait. Donc ça veut dire que ça forme un bon collectif, Renard, Henry, ça aussi c'est encourageant. Et évidemment, c'est pas tout à fait dans la lucarne, comme tu l'as dit, Quentin, parce qu'il va falloir qu'il fasse ses preuves dans le décrassage de l'effectif. D'ailleurs, c'est une autre partie du dossier de Dave à ce sujet. Parfois aussi avec des dossiers assez délicats. On pense à Bojan, qu'est-ce qui va se passer avec lui. On pense à Urruti aussi, qui sont des gros salaires, parce que j'entendais, je pense que c'était sur TVA Sport dans l'avant-match, ils disaient, ah, il faut que les joueurs qui ont des gros salaires donnent de leur mieux sur le terrain et apportent quelque chose. Mais déjà, il faut qu'ils commencent par jouer. Et il y en a, bon, bah, pour qui c'est plus compliqué. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer, mais ça, on en a déjà parlé quand Bojan va revenir en forme de match. Et donc ça va être des choses à gérer, évidemment, d'abord par le staff technique, mais aussi par Olivier Renard, pour pouvoir évidemment augmenter le budget salarial et encore aller renforcer l'équipe par la suite pour augmenter les ambitions de l'Impact de Montréal. Et l'autre point que je rajouterais, bien vu Quentin, c'est aussi conserver les joueurs qui sont importants pour l'équipe et arriver à les garder, parce que souvenez-vous, on l'a dit tellement souvent à cette émission-là, quand on parlait de transfert et tout, et en fait on l'a répété plusieurs fois par an, c'est quel joueur était meilleur à l'Impact de Montréal au moment où il en est parti qu'au moment où il en est arrivé. Et la liste était très courte. Et là, si la liste commence à se rallonger, évidemment, il y en a comme Mings qui vont être difficiles à garder, mais il y en a qu'il faudra absolument garder, parce que si ça devient une porte tournante, parce que les joueurs s'améliorent et qu'on n'arrive pas à les garder, ça va être problématique. Donc ça aussi, Olivier Renard va devoir faire ses preuves à ce niveau-là, et je pense que Kyoto, pour ça, c'est un premier dossier très très important. Il faudrait arriver à le garder plus qu'une saison. Lui, il apporte beaucoup. Et c'est une bonne chose, et comme tu l'as dit, Quentin, le contrat était de courte durée, et je pense que c'était pas une mauvaise idée, parce que le nombre de contrats de longue durée qu'il y a eu à l'Impact de Montréal, et qui pèse encore maintenant, justement, parce que les joueurs ne donnent pas satisfaction, bah, on l'a assez reproché à la direction sportive précédente, que pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc oui, cette première année est réussie, évidemment, ça demande confirmation. Bon, nous, on a dit que la première année d'Olivier Renard était réussie. On espère que vous, de votre côté, qui nous écoutez, pensez que cette émission a été réussie. En tout cas, elle touche à sa fin. Si vous trouvez qu'elle a été réussie, ben, vous pouvez nous écouter la semaine prochaine. Si vous trouvez qu'elle n'a pas été aussi réussie que ça, ben, c'est comme l'Impact de Montréal. Parfois, vous dites, ah, ils ont pas bien joué, mais vous regardez quand même le match suivant pour voir si c'est mieux. Eh ben, vous ferez la même chose en nous écoutant la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. On espère que, comme d'habitude, vous avez apprécié cette heure en notre compagnie. Comme vous le savez, l'émission, vous pouvez la retrouver sur Vioparc, qui a la gentillesse de nous héberger, sur ImpactSoccer.com et sur vos diffuseurs habituels. À bientôt tout le monde, au revoir.